Bienvenue dans À tes amours, le podcast qui propose une autre manière d'aborder les relations. Nous sommes Adèle,
Alexia
et Sacha.
Et nous allons vous parler notamment d'émotions, de communication, de polyamour et d'autres formes de non-monogamie. Ce podcast s'adresse à toute personne s'interrogeant sur les relations.
Parler de vocabulaire, ça peut paraître rébarbatif pour pas mal de gens. Pourtant, s'accorder sur le vocabulaire, c'est essentiel pour se comprendre. Aujourd'hui, on parle de vocabulaire.
Oh non !
Mais pas de panique, on ne fait pas une longue liste de termes complexes, on va parler d'un seul mot, le mot polyamour. Bah, on a déjà passé tout le premier épisode de ce podcast à définir le terme. Donc ici, on ne s'attarde pas sur la définition, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de comprendre ce qu'ont les gens en tête quand ils utilisent le mot polyamour, et aussi ce qu'en face les gens imaginent quand ils l'entendent. Lorsqu'on a des discussions, même avec des personnes qui connaissent bien le polyamour, il peut facilement y avoir des incompréhensions et des ambiguïtés lorsqu'on utilise le mot polyamour dans des questions comme « est-ce que le polyamour c'est inné ou acquis ?» ou encore « est-ce que le polyamour c'est pas encore un système d'oppression des hommes envers les femmes ?» Ce qui nous intéresse dans cet épisode, c'est quelles sont les différentes interprétations du mot polyamour, mais aussi de si une relation polyamoureuse doit être amoureuse. Et enfin, de quels autres termes pourraient être utilisés à la place. Bon, pour démarrer l'épisode, j'ai envie de vous poser la question dont j'ai parlé dans l'introduction. Est-ce que le polyamour, c'est inné ou acquis ?
Tu commences par une question difficile, là. Moi, je dirais, je sais pas et je m'en fiche.
Moi, je dirais, ça peut être l'un, l'autre ou les deux, voire aucun des deux.
Je pense qu'on a fait les meilleures réponses. Échec et mat, Sacha.
Cette question, je l'entends parfois dans des événements polyamoureux et j'entends des gens répondre, etc. Mais en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que les gens, bah, ils savent pas répondre et disent oui, l'un ou l'autre, ou alors ils partent d'un seul côté, mais en fait, ce qui rend la question compliquée pour moi particulièrement, c'est que, en fait, on parle pas de la même chose. On peut dire, oui, le polyamour c'est inné, mais on parle d'une chose, et on peut dire le polyamour c'est acquis, on parle d'autre chose, et en fait, on parle de différents concepts qu'on va utiliser le même mot, le mot polyamour. Et c'est ça qui rend compliqué.
Bon, montre-nous les concepts alors.
J'ai lu un article de blog qui a fait un découpage que j'ai trouvé très intéressant sur les trois significations. Selon cet article, dont je vais vous mettre le lien en description, c'est un blog qui s'appelle Anarkamori. Et il fait trois significations différentes du même mot polyamour. Ces trois significations sont, premièrement, le polyamour de fait. C'est-à-dire lorsqu'on est dans une relation polyamoureuse, tout simplement.
C'est une sorte de polyamour de situation relationnelle, en fait.
Je suis pas sûr de comprendre ce que tu veux dire.
C'est en fonction de quelle est ta situation relationnelle. Si ta situation relationnelle, c'est que tu es en train de relationner avec plusieurs personnes, c'est du polyamour.
De fait, oui.
Voilà.
Mais du coup, ce fait, il s'arrête, par exemple, si on devient célibataire ou si on n'a plus qu'une seule relation.
Si ta situation relationnelle, c'est célibataire, quoi.
Et en fait, ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que ça en revient à la définition qu'on a donnée lors du premier épisode de À tes amours, le premier épisode Notion, où on s'est trouvé ensemble une définition du mot polyamour. Et je vais vous la redonner ici. On était parti de la définition du Larousse, qui, elle, commençait par que le polyamour, c'est le fait de quelque chose, et nous, on trouvait justement que c'était trop restrictif, et donc, on a dit à la place que c'était, à la place du fait, on a dit que c'était un modèle de relation dans lequel il est accepté de vivre une relation intime durable avec plusieurs partenaires en parallèle, de manière consensuelle, franche et assumée. Et du coup, l'idée, c'est de dire que le polyamour, ce n'est pas que le fait. C'est pas que un fait, c'est aussi autre chose. Et donc, qu'est-ce que c'est autre chose ? Le deuxième sens qu'il peut y avoir derrière le mot polyamour, c'est le fait d'aller vers du polyamour pour des raisons émotionnelles. Et c'est ce qu'il appelle le polyamour orientation.
C'est une sorte de polyamour de cœur, c'est-à-dire ton cœur est capable d'aimer plusieurs personnes, c'est un truc de fait et qui t'appartient et que tu peux pas forcément changer.
C'est ça.
Ok.
Et enfin, le troisième sens qu'il y a, c'est les gens qui vont vers le polyamour pour des raisons intellectuelles, et c'est ce qu'il appelle le polyamour philosophie.
Mm-mm.
ça c'est presque on aime l'idée du polyamour et on décide d'aller vers ça, quoi.
C'est ça. Donc voilà, donc là j'ai brièvement expliqué quels étaient les trois sens et maintenant on peut en discuter plus.
C'est marrant parce que ces trois aspects-là me font penser à une discussion que j'ai eue cet été à propos du lesbianisme et où en fait c'était un petit peu la même idée et j'ai notamment aussi lu un bouquin qui s'appelle « Comment devenir lesbienne en 10 étapes » dans lequel c'est correctement introduit. Et en fait, il y avait un petit peu la même situation de bah, « on peut se définir lesbienne à partir du moment où on a couché avec une femme ». Et là, ce serait le lesbianisme de fait, comme on a défini le polyamour de fait. Il y a « on peut se définir lesbienne en tant qu'orientation et on se visualise pas être autre chose que... homosexuel, on pourrait pas être hétérosexuel parce que juste on est attiré par des femmes, on ressent de l'amour que pour des femmes. Et il y a l'aspect lesbianisme politique où ce serait à rapprocher du polyamour philosophie où en fait le lesbianisme serait un choix de mode de vie presque. En tout cas, ça m'évoque vraiment vraiment ces aspects-là.
En plus, le polyamour politique, on peut dire c'est le polypolitique et c'est vraiment rigolo.
J'en profite d'ailleurs pour faire aussi une petite parenthèse. Ça pose peut-être aussi la question de est-ce qu'on a le choix d'être polyamoureux ou pas ? Et c'est le cas pour pas mal d'orientations. Moi, c'est une question qui m'a un peu posé problème justement cet été. Et j'aime bien l'idée de se dire que en fait, on peut créer un environnement dans lequel on se sent la possibilité d'explorer ces modèles-là. Et qui dépendent potentiellement du contexte social, du contexte politique, etc., dans lequel on grandit et des modèles auxquels on est exposé. Et ça, aujourd'hui, je pense le polyamour souffre un peu d'un manque de visibilité là-dessus. Par contre, on peut pas chercher à devenir ce qu'on n'est absolument pas. Et il y a ce truc-là, je trouve, dans le polyamour orientation. Et même, dans le polyamour philosophie, on va pas chercher à devenir quelque chose si jamais c'est vraiment contre notre nature, quoi.
Yeah.
Ce qui est intéressant dans l'orientation, en fait, c'est que c'est un spectre aussi qui est conditionné par l'environnement social, etc., qui va nous permettre plus facilement, comme tu l'as dit, d'aller vers ou pas. Et peut-être que du coup, on peut, avec le temps, évoluer sur ce spectre. Mais en tout cas, ça va de... depuis toujours, j'ai toujours été attiré par plein de gens et je tombais amoureux de plein de gens, même quand j'étais petit, etc. Et ça a toujours été comme ça. Et du coup, là, t'es au maximum du spectre, jusqu'à, si t'es encore dans le spectre, mais qui est tout en bas, le fait de, j'accepte que mon partenaire voit plusieurs personnes, mais moi, en fait, je ressens pas vraiment d'attrait pour d'autres personnes. Ou alors même presque même un niveau négatif zéro qui serait jamais de la vie, ça me intrinsèquement, enfin émotionnellement, ça me paraît trop impossible qu'il y ait plusieurs partenaires, quoi. Et si on rapproche ça comme tu l'as fait du lesbianisme, tu dis que on peut s'ouvrir à la question de est-ce que j'ai envie de le lesbianisme politique ne reste possible que si la femme est déjà quelque part sur ce spectre et pas à 0-0, et donc si jamais elle est pas du tout intéressée émotionnellement par les femmes, ça ne marchera pas. Et on a bien vu à l'inverse les thérapies de conversion que ça fonctionnait pas du tout et que c'était catastrophique.
Ouais, ce que je trouve intéressant aussi dans les trois définitions que t'as dit, c'est à part la première qui est plus un constat de situation et finalement c'est presque apposer une étiquette à un temps T, les deux autres pour moi ça ouvre en fait presque des possible de mon point de vue sur comment on veut se vivre, comment on veut se renvoyer, comment on veut s'étiqueter et il y a pas un polyamour qui est plus vrai que l'autre, c'est juste différentes manières de les vivre peut-être à différentes phases aussi.
Je propose que pour illustrer un petit peu que on parle nous où est-ce qu'on se situe sur ces différents aspects.
Je peux commencer. Moi je pense qu'en premier lieu je me sentais un peu en polyamour orientation, mais je l'avais jamais vécu et du coup c'est difficile de se dire ok c'est ça et je suis polyamoureuse dans le fond puisque j'avais jamais eu la possibilité de le vivre de fait, donc c'était compliqué de me dire ça.
Mais tu tombais amoureuse ou presque, enfin en tout cas tu te sentais attirée par plusieurs personnes, c'est pour ça que tu dis ça.
Ben, je pense que je voyais que j'avais envie de relationner avec différentes personnes, mais je me l'autorisais pas vraiment. Donc, je pense que je pouvais même pas vraiment le conceptualiser comme étant quelque chose dans lequel je me projetais. Et je pense que ce qui a changé, c'est justement de le voir autour de moi, de me dire que c'était un modèle, et du coup, finalement, d'adopter ce modèle en mode, bah, je veux que ce soit ça ma philosophie de vie, j'aimerais aller vers ça. Et ça a rendu possible le fait de sentir si, pour moi, oui ou non, il y avait cette orientation et de le vivre ensuite de fait. Donc, j'ai peut-être fait les choses à l'envers, mais moi, j'ai l'impression de l'avoir un peu senti, puis du coup, de l'avoir voulu, d'avoir du coup confirmé que c'était ça et d'avoir pu le vivre.
Ça me semble un ordre des choses raisonnable, hein.
Et du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un peu dans les trois, c'est-à-dire que c'est mon choix de modèle, c'est mon orientation aussi, et bah, je le vis de fait, donc je suis assez alignée avec les trois.
Bah, pareil, alors donc je suis en polyamour de fait, j'ai plusieurs partenaires. Sur l'émotionnel, je pense effectivement, genre, ça m'a toujours parlé, le fait de pouvoir éprouver des sentiments pour différentes personnes. Par exemple, je me souviens qu'une grande artiste qui s'appelle Laurie avait écrit une chanson qui s'appelle Entre vous deux, et ça parle du fait que elle aime bien deux garçons, et bah, je m'en souviens bien, quoi. Je suis capable de chanter cette chanson. Je vous l'épargne.
Tu ne vas pas le faire. C'est à cause de problèmes de droit, on pourra pas diffuser l'épisode, sinon après. Tout ça,
c'est pas du tout parce qu'on veut pas entendre la chanson et l'avoir dans la tête.
Donc ça, c'est un truc qui remonte aux années 2000, quoi. J'avais genre 10 ans, quelque chose. Et je me souviens ensuite au collège de ma prof de français qui avait parlé de la relation entre Sartre et de Beauvoir. Et elle avait dit non, mais ils avaient un peu le droit d'aller voir ailleurs, elle avait dit. Et ça m'avait un peu intriguée sur la question de non-monogamie, quoi. Et c'est un peu les deux souvenirs un peu lointains qui me sont restés quand même assez vifs dans ma mauvaise mémoire. Et du coup, je pense que bah, c'est assez clair que j'ai une orientation de polyamour de cœur, quoi. Mmh. Et après, sur le polyamour philosophie, il y a un vrai truc de... Je pense que j'ai aussi un truc qui me déplaît un peu dans la monogamie. Enfin, c'est pas tous les couples monogames qui sont comme ça, mais qui est à la fois de vraiment avoir ton système de solidarité qui repose sur une personne. Et je trouve ça hyper risqué parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un accident, que ça soit la mort de ton partenaire ou que ça soit il tombe dans des conditions psychiatriques compliquées, ou alors juste vous vous entendez plus du tout, et ça me fait assez peur, ce concept de pouvoir être aussi déséquilibré. Et j'aime pas le fait de d'être centré sur quelqu'un et de fermer les yeux sur les personnes qu'il y a autour. Alors encore une fois, genre c'est pas ce que font tous les couples mono, mais c'est des choses qui, d'un certain modèle mono, qui me repoussent un peu, et j'ai vraiment envie d'aller à l'encontre de ça d'un point de vue philosophique, quoi.
Effectivement, comme tu dis, il y a probablement moyen d'avoir des relations monogames qui prennent tout ça en compte et qui le gèrent bien, mais en tout cas, toi,
oui,
c'est ce qui t'a motivé à aller réfléchir à d'autres choses, quoi.
Ouais, c'est des choses qui jouent, en tout cas. Et toi, Sacha ?
Alors moi, je suis actuellement en polyamour de fait. Et du point de vue orientation, alors c'est assez marrant parce que je pense que pour moi c'est très très peu présent. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui naturellement, comment dire, c'est pas quelque chose que je vis vraiment au fond de moi en me disant je me sens tomber facilement amoureux de plusieurs personnes ou avoir envie de relationner avec plusieurs personnes. C'est pas quelque chose que j'ai particulièrement ressenti. Et en fait même, alors j'ai menti parce que dans l'introduction, j'ai dit qu'on n'allait pas parler d'autres mots de vocabulaire, mais j'ai quand même utilisé un autre mot de vocabulaire. C'est il y a des gens qui utilisent le mot ambi-amour ou ambi-amori en anglais, ouais, pour les gens qui pourraient tout aussi bien être contents d'une relation polyamoureuse ou d'une relation mono.
Ouais, mmh. Je découvre le mot.
Moi, je pense, alors sous un certain nombre de réserves que je détaillerai pas ici, mais je pense que en fait, une relation mono, ça pourrait m'aller, en tout cas émotionnellement, c'est pas du tout quelque chose que je trouverais limitant, où je me dirais oh là là, enfin, intellectuellement peut-être plus, mais en tout cas émotionnellement, c'est pas du tout quelque chose qui me gênerait, et en me disant oh là, c'est trop dur parce que je tombe amoureux de telle autre personne et du coup je suis obligé de me frustrer ou j'en sais rien. Donc voilà, pour moi, Ouais, je suis pas très haut sur ce spectre de l'orientation. C'est pas quelque chose qui me parle énormément à titre personnel. Et du coup, à contrario, bah, ce qui me motive plus, c'est le polyamour philosophie. C'est tout ce qui va être intellectuel derrière, que ça soit les questions d'appartenance, de contrôle de l'autre, justement de moins contrôler l'autre, d'aller au-delà des choses que je trouve assez illogiques des relations mono où t'as le droit de faire des bisous sur certaines parties des corps des autres mais pas sur d'autres, et en fait tous ces trucs-là sont complètement arbitraires, et voilà, c'est toutes ces choses-là, ou alors même des choses intellectuelles qui vont être juste de pratique en fait. Si j'aime une personne et que cette autre personne devient amoureuse de quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce qu'il faudrait que je risque que ma relation avec cette personne s'arrête, quoi.
Mmh.
Donc voilà, c'est plutôt ça pour moi qui est important. C'est plus, je suis plutôt assez haut dans le polyamour philosophie et assez bas dans le polyamour orientation.
Et du coup, par rapport à ça, maintenant, tu dirais que le polyamour, c'est inné ou acquis ?
Bah, justement, pour moi, du coup, cette question, en fait, elle se répond assez facilement. Une fois qu'on a décomposé ces trois sens qu'il y a derrière le mot polyamour, c'est que le polyamour orientation, il est inné. Alors, d'une certaine manière, il plaît peut-être un peu acquis. Rien, de toute façon, dans la vie est complètement inné ou complètement acquis. Mais en tout cas, l'orientation, elle est plutôt innée. Et le polyamour philosophie, qui nécessite des réflexions, etc., eh bien, c'est plutôt acquis.
Et le polyamour de fait, c'est inné ou acquis?
A priori, c'est acquis parce que tu n'es pas en relation polyamoureuse.
Tu réponds bien, hein.
Et en fait, l'autre question que j'ai posée dans l'introduction qui était est-ce que le polyamour, c'est pas quelque chose qui va être encore une perpétuation d'un système d'oppression des hommes envers les femmes, à savoir est-ce que du coup les hommes profitent du polyamour pour juste coucher avec plein de femmes, etc. Qui est d'ailleurs le titre de l'article de blog sur lequel on reprend ce découpage-là, parce que c'est la réflexion initiale à partir de laquelle il fait ce découpage. Et ben c'est assez intéressant parce que en gros toutes ces préoccupations autour du polyamour qui serait encore juste un truc pour que les mecs fassent n'importe quoi et juste puissent coucher avec n'importe qui sans se poser aucune question, et bien en fait ça ne va concerner que le polyamour, enfin que ça va concerner le polyamour de fait. C'est des gens qui vont juste de fait se mettre sur une appli de rencontre et dire je suis polyamoureux, et ça leur permet, je sais pas, de tromper leur copine, et ils se posent pas plus de questions derrière. Et en fait, si jamais on dit que le polyamour, c'est quelque chose qui sert juste à coucher avec des femmes sans s'engager, par exemple, ce qu'on peut entendre. Eh bien, en fait, on parle juste d'une partie du polyamour de fait, et on nie complètement l'expérience des gens qui sont en orientation polyamoureuse et qui, pour eux, c'est pas juste qu'ils veulent arnaquer des gens, c'est juste que c'est ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux, et on nie complètement tous les gens qui ont une dimension philosophique, réfléchie, éthique autour de tout ça.
Ouais, c'est toujours pour faire la comparaison avec le lesbianisme, c'est vraiment rapprocher des personnes qui, par curiosité, voudraient éventuellement coucher avec d'autres femmes sans se poser trop de questions de est-ce que ça risque de blesser les femmes en face qui, elles, recherchent des partenaires avec qui construire une relation ou quelque chose comme ça, quoi.
Et ce qui est intéressant avec ce découpage, c'est que c'est ces trois choses qui sont complètement indépendantes les unes des autres, et c'est pas parce qu'on parle de polyamour et qu'on pense dans sa tête polyamour de fait, par exemple, et bien que ça va forcément inclure les deux autres.
Ouais, et puis j'avoue que je pense que distinguer ces trois dimensions-là pourrait peut-être aider aussi parfois à me faire comprendre. Je repense à une discussion que j'ai eue avec ma famille cet été. Et en fait, je parlais de difficultés que j'avais dans ma vie, dans mon organisation de polyamour de fait. Et du coup, une personne de ma famille m'a dit « Mais dans ce cas-là, pourquoi tu te mets pas en couple avec quelqu'un en monogamie ?» Et en fait, c'était ignorer une partie de ma manière de vivre qui est « J'ai envie d'être en polyamour, en philosophie, et je me ressens polyamoureuse orientation. » Donc, c'est ça mon vécu. Donc, quand bien même je parle de certaines problématiques liées à mon modèle de vie, ça ne veut pas dire que je veux changer de modèle. Et peut-être que si j'avais évoqué ces trois aspects, ça aurait été mieux compris.
Vous pouvez donc aborder la question lors de votre dîner de famille.
Alors maintenant, je vais poser une question très simple. Est-ce qu'il y a amour dans polyamour ?
Oui, question suivante.
Littéralement, c'est écrit. Après, j'imagine que la question, elle dépasse un peu ça.
Oui, et en fait, le fait que ça soit écrit, c'est un problème qui est soulevé par certaines personnes. La question, du coup, pour être plus précis, c'est est-ce que lorsqu'on parle de relations polyamoureuses, est-ce que ça veut dire que les gens dans les relations, ils sont amoureux ?
Oui.
Est-ce que ça veut dire que si les gens sont pas amoureux, que c'est pas vraiment une relation polyamoureuse ?
Oui.
Mais moi, je suis pas aussi catégorique qu'Alexia, mais je pense que...
C'est parce qu'elle a tort.
Je pense que c'est surtout parce que, de mon côté, déjà, j'ai l'impression que ça repose aussi sur qu'est-ce qu'on met derrière le mot amour, et je sais que je peux dire je t'aime et que je sens un élan fort d'amour vis-à-vis de beaucoup de personnes, et pour moi, le polyamour englobe ça d'une certaine manière.
Oui, alors après, on pourrait tout simplement restreindre le terme amour et parler, parce que souvent quand les gens ils entendent polyamour, ils entendent le mot amour dans le sens amour passionnel, romantique, quoi. Déjà, mm-hmm. si on restreint que à ça, c'est déjà une question qui mérite d'être posée. Parce qu'en fait, si on reprend ce qu'on a dit dans le tout premier épisode, où on a donné la définition que j'ai relue tout à l'heure, on parle de relations intimes. Et dans la définition du Larousse, il me semble qu'il disait romantique et ou sexuel. Et en fait, l'idée, c'est que on avait volontairement gardé un flou pour intime pour dire que il n'y a pas forcément, en réalité, nécessairement, d'amour au sens romantique dans le polyamour.
Après, encore une fois, je pense que ces questions, elles sont compliquées parce que moi, tu me demandes aujourd'hui avec qui je suis en relation polyamoureuse. Je pense que je vais devoir demander à la personne de préciser sa question presque pour me dire qu'est-ce que ça veut dire être partenaire ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Si c'est avec qui je couche, globalement, pas grand monde. Donc, si c'est qui j'aime, potentiellement beaucoup de gens. Et je pense que là-dessus, c'est pareil, ça dépend énormément de comment tu te projettes dans tes liens et qui tu as envie d'appeler ton partenaire, avec qui tu projettes une relation polyamoureuse. Mais en fait, c'est juste une question de ton vécu et de comment tu l'as défini avec tes autres relations.
Après, on en revient à ce qu'on dit quand on parle d'étiquettes, qu'au final, les étiquettes, chacun utilise l'étiquette qui pense lui correspond le plus. Et donc... L'idée, c'est de pas interdire ou autoriser l'étiquette polyamour à certaines personnes. L'idée, c'est plutôt de se... Là, la question que je me pose, en fait, c'est est-ce qu'aujourd'hui, quand les gens entendent le mot polyamour, ils s'imaginent aussi que ça peut être des relations qui ne sont pas romantiques ?
Non.
j'ai l'impression que c'est le cas. Et en fait, c'était pas la définition originelle. Et en fait, notamment, le terme anglais, à la base, qui est donc le terme originel, c'est polyamory. Et c'est pas polylove. Ça parle de amory qui veut rien dire en anglais. Et l'idée, c'est pas de définir des relations qui vont être nécessairement romantiques.
Ouais, mais poly, ça veut rien dire en anglais non plus. C'est du latin, si je me trompe pas. Non, c'est du grec.
C'est du grec, poly.
Voilà, donc poly, c'est grec et amory, c'est du latin. Et c'est juste... Ils ont mélangé les langues comme on mélange les relations, tu vois. Mais ouais, pour moi, polyamour, ça veut dire, en gros, t'es dans une relation où t'es potentiellement impliqué romantiquement avec plusieurs personnes. Après, j'ai l'impression... Enfin, personnellement, j'utilise polyamour au sens plus large, parce que juste dire relation non monogame, c'est un peu long à dire. Et du coup, on peut dire, ok, genre, ce qui est des relations multiples, où t'es pas forcément amoureux de tout le monde, où t'es éventuellement amoureux de personne... On peut dire que c'est du polyamour par proximité, quoi. Mais du coup, je dirais, pour moi, il y a un polyamour au sens strict, qui est avoir potentiellement plusieurs amours, et un polyamour au sens large, qui recouvre un peu plus les relations non monogames.
Mais pourquoi tu appelles ça le sens strict ? Enfin, si, c'est parce qu'il est plus strict que l'autre, mais pourquoi est-ce que ça serait le sens strict ? Pourquoi est-ce qu'il est restreint comme ça ?
Parce que pour moi, étymologiquement, c'est plusieurs amours.
Alors, si tu en reviens à l'origine, parce qu'à l'origine, c'est un terme qui a été utilisé donc en anglais, où du coup, il n'y a pas l'histoire de plusieurs amours, et en plus, c'est un terme qui a été utilisé pour remplacer, comme tu le disais, parce que c'était embêtant, le terme de non-monogamie, qui était problématique parce que c'est trop long, parce qu'il y a un non dedans, etc. Donc, à la base, ça ne vient pas là-dessus. Et le problème, c'est qu'on a en France, du coup, le terme amour qui ressort littéralement. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire que le terme polyamour est une mauvaise traduction de l'anglais polyamory, parce que du coup on entend amour avec un grand A qui sonne, et c'est pour ça que du coup il y a des gens qui choisissent d'utiliser le terme polyamorie pour bien insister sur le fait qu'on n'entend plus amour. Si t'entends polyamorie, le mot français polyamorie, tu entends beaucoup moins le, t'entends pas le mot amour, et du coup tu vas moins te dire que il faut forcément être amoureux.
Bah du coup je comprends le choix de ces personnes, parce qu'effectivement je pense que dans la société, en utilisant polyamour, les gens vont forcément penser à plusieurs amoureux, et que de fait les gens vont l'utiliser comme ça et t'auras pas le contrôle dessus.
J'ai l'impression que c'est ce qui est en train un petit peu de d'arriver, parce que effectivement quand je discute avec des gens, même dans des voilà des événements polyamoureux etc, les gens ont l'air, il y a pas mal de gens qui sont convaincus que polyamour ça veut dire qu'il faut être amoureux, ou pas forcément amoureux très fort, mais en tout cas qu'il y ait vraiment une dimension romantique qui soit assez fort, alors que normalement c'est censé pouvoir inclure des personnes qui vont être aromantiques, c'est censé pouvoir inclure des relations qui sont pas particulièrement amoureuses ou romantiques, mais qui sont qui restent intimes, qui peuvent être de l'ordre sexuel par exemple.
Ouais, mais pour moi on n'a pas le contrôle, et si plein de gens, si on se retrouve avec 90% des gens qui pensent que c'est plusieurs amours, au final bah, le sens du mot ça devient ça quoi.
Et du coup, peut-être effectivement qu'aujourd'hui, c'est trop tard, c'est foutu, le sens de polyamour a basculé, et que maintenant, il est utilisé principalement pour des gens qui veulent dire qu'ils sont dans des relations où il y a vraiment un côté amoureux.
Et oui, Sacha, je pense que tu dois lâcher l'affaire et que j'ai raison.
Mais du coup, ça mène à un autre problème de vocabulaire, parce que du coup, comme il y a des gens qui utilisent le terme polyamorie en français pour insister sur le fait que c'est pas forcément romantique, et à la base, polyamour et polyamorie sont censés être exactement le même mot.
Eh bien, plus du tout. Et c'est comme ça qu'on voit la naissance de nouveaux mots, Sacha.
Ouais, et maintenant, il y a des gens qui commencent peut-être à se dire que, bah, en fait, c'est deux sens différents, et donc, du coup, polyamorie, ça serait vraiment inclure tous les gens qui seraient pas...
C'est sûr, hein. C'est sûr qu'il y a des gens qui utilisent comme ça.
Voilà.
Et du coup, ce serait quoi les autres mots potentiels à utiliser, parce que...
Il y a tout un tas de mots qui ont été inventés avant ou après, d'ailleurs, l'invention du mot polyamour, hein, puisque finalement, le mot anglais polyamory, il est quand même assez récent, il date du début des années 90. Et donc, on a tout un tas de mots qui ont tenté de faire leur chemin, que ça soit amour pluriel ou lutinage, ou alors des mots encore plus anciens, mais qui parlaient peut-être de choses un petit peu différentes, qui s'approchent des milieux anarchistes, comme la camaraderie amoureuse. Tout ça, c'est des mots qui sont pas vraiment utilisés aujourd'hui. Donc après, si quelqu'un veut essayer de le remettre à la mode, c'est possible.
Je vais trop faire ça. Je vais remettre les autrices, les anarchistes, Alexandra Kollontai et Emma Goldman, qui, elles, utilisaient, il me semble, amour libre ou union libre. Et déjà, c'était en... vraiment début du XXe siècle, quoi, genre 1909.
En tout cas, je suis d'accord pour utiliser des mots de ce type, et moi, je trouve ça mignon de se définir comme lutine, c'est trop mignon.
Mais lutine, pour moi, c'est déjà très connoté sexuellement.
Ah bah non, du en fait, coup, alors, j'abandonne.
Je sais pas si ça te convient.
Alexandra Kollontai, elle parlait de... amour camaraderie. Et en fait, il y a un autre anarchiste français qui parlait à peu près dans le même temps de camaraderie amoureuse. Bon, c'est des termes qui sont un peu compliqués aussi, parce que derrière, il y a des concepts un peu différents qui sont potentiellement moins éthiques que ceux qu'on voit aujourd'hui. Voilà, après, c'est des termes qui sont pas évident à ressortir aujourd'hui, parce que les gens vont pas comprendre. Par exemple, j'ai une amie qui, la semaine dernière, a dit « Ah, vous connaissiez le terme lutinage, vous saviez ce que ça veut dire ?» parce qu'elle avait jamais entendu parler. Et en fait, c'est compliqué. Pour moi, c'est le terme polyamour qui a gagné. Et donc, du coup...
Bravo.
On utilise celui-là, il a plein de défauts, notamment le fait que son sens change au fil du temps, comme on en discutait juste avant. Pour moi, c'est ça qui est le plus utilisé aujourd'hui.
Après, moi, je vois beaucoup utilisé, et j'utilise personnellement la formulation anarchie relationnelle. Alors, quand j'en parle à ma mère, elle dit non, ouais, c'est trop pour moi. mais pour moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans les milieux, par exemple, dans lequel je me reconnais beaucoup.
Oui, mais ça, c'est pas un terme que tu peux utiliser pour remplacer le terme polyamour, par exemple.
Oui, non, ça, c'est sûr.
Et après, il y a un terme qui est très souvent utilisé, qui est le terme de non-monogamie éthique ou non-monogamie consensuelle.
Mais c'est trop long à dire.
Alors du coup, les gens, ils disent les acronymes.
Ah, c'est horrible.
Encore pire.
Personne ne comprend rien.
Et soit ils sont en puissance en anglais, soit ils sont en français. Là, j'arrive même pas à les redire de tête.
Ce qui prouve qu'ils sont largement utilisés.
Bah si, c'est ENM pour Ethical Non-Monogamy et NME pour Non-Monogamie Éthique, par exemple.
Par exemple.
C'est nul. Allez, question suivante.
Et en fait, il y a effectivement plusieurs problèmes avec ce terme, et c'est pour ça que moi, enfin, il y a plusieurs raisons pour lesquelles moi je l'utilise pas, par exemple. C'est, bon, déjà, il y a le fait que ça soit non, que ça s'inscrive en opposition avec quelque chose. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, le terme polyamour a été inventé à la base, parce qu'il voulait pas que ça soit en opposition à quelque chose.
Ouais, et puis l'aspect éthique et consensuel, ça fait un peu genre, tous les autres modèles, ils sont pourris, et ils respectent absolument pas les autres, et c'est aussi un truc qui est un peu moyen, je trouve.
C'est ça, tout à fait.
Oh, on devrait l'appeler genre modèle de relation supérieure à tous les autres, comme ça c'est clair.
Mais en plus du fait que c'est dénigrant pour les autres modèles, c'est aussi un petit peu présomptueux de se dire « moi je fais de la non-monogamie éthique ». Alors déjà, on ne sait pas ce que ça veut dire, il faut définir éthique. On met un jugement moral hyper fort sur juste le fait de « potentiellement je suis juste en train de coucher avec deux personnes ». Et en plus, qu'est-ce qui se passe le jour où tu fais un truc qui n'est pas très éthique ? Ce qui risque probablement d'arriver, parce que tout le monde fait des erreurs dans la vie. Et donc du coup, ça voudrait dire que... alors non, dès que quelqu'un fait une erreur, on le met de côté et il fait pas partie de la non-monogamie éthique parce qu'il a fait une erreur.
Bah ouais, t'es en non-monogamie non-éthique, désolé.
Non-monogamie, tu as failli.
Alors, bon, pour défendre le terme, hein, l'idée de mettre éthique ou consensuel, c'est pour différencier de la non-monogamie de fait... où on revient du coup sur le de fait, pour la non-monogamie de fait qui est juste tromper quelqu'un, quoi.
Mm-mm.
Après, est-ce que tromper quelqu'un, on peut dire que c'est de la non-monogamie ? Bon, c'est un peu une autre question, mais en tout cas...
Après, non-monogamie éthique, dans le sens philosophie dont on parlait au début, ça a du sens pour le coup, parce que l'éthique, pour le coup, c'est une notion aussi philosophique. Donc on pourrait se dire que c'est un objectif, en quelque sorte, de viser à ça. Et dans ce cadre-là, ça fait sens.
Comme pour le safer sex, on pourrait dire genre la non-monogamie un peu plus éthique que celle qui n'est pas éthique. Alors je vous laisse voir quelle lettre il faut dire pour raccourcir.
Après, j'entends parfois des gens parler, par exemple, de... alors c'est pas le terme qu'ils utilisent, mais de monogamie éthique, par exemple, qui serait l'idée de reprendre tous les questionnements qu'on a, bah, par exemple, dans ce podcast, lorsqu'on discute de polyamour, mais de... c'est quelque chose qui est choisi, c'est quelque chose où on essaye de ne pas contrôler l'autre, c'est quelque chose où... on a pas mal de réflexions, et on essaye de faire les choses bien, il y a tout un système de réflexion qui est... aujourd'hui, qui reste quand même un petit peu obligatoire dans les relations non exclusives, parce qu'en fait, c'est tellement hors norme que t'es obligé un petit peu de te poser des questions, t'es obligé un petit peu de te renseigner, donc du coup, tu vas réfléchir un petit peu, quoi. Ça veut pas dire que tu vas forcément faire les choses bien, et ça veut pas dire que tu peux pas faire des grosses saloperies à des gens, mais il y a quand même une réflexion qui est présente, quoi. Et donc, ce terme éthique ou consensuel, il peut être aussi là pour dire, c'est quelque chose dont on a réfléchi, et on s'est mis d'accord que c'était ça qu'on voulait, quoi.
Mm-mm.
On va bientôt parler des couples éthiques.
Ouais.
C'est ce qu'on appelle la monogamie choisie, en fait, après, où si tu as envisagé les différents modèles et que du coup, tu estimes que tu as vraiment réfléchi, je crois qu'il y en a qui utilisent le terme monogamie choisie ou quelque chose dans le genre pour insister sur le fait que c'est pas un truc par défaut, quoi.
Je trouve ça chouette, mais j'ai jamais entendu personne se labelliser comme ça pour le moment.
Moi non plus.
Parce que vous êtes entouré de polyamoureux.
Même pas.
Le seul truc que j'avais entendu, c'était quelque chose comme... mais j'ai entendu qu'une seule fois, mais quelqu'un utilisait genre le terme mono-amori en parallèle du coup à polyamori pour dire en fait c'est de la monogamie, mais en rajoutant un peu tous les concepts de réflexion et de...
Moi, je me retrouve à utiliser aussi le terme mono-amour que je vois pas vraiment écrit, mais en fait, comme je parle de polyamour... après, c'est facile de dire mono-amour à côté, quoi.
Mm.
Bon, donc du coup, pour ces différents termes, moi, personnellement, ça reste toujours le terme polyamour que je trouve le plus pertinent d'utiliser, parce que c'est un mot qui, ça y est, est sorti de son cocon et dans tous les médias, et quasiment tout le monde en a entendu parler aujourd'hui. Et finalement, yep. Il est pas si mal, même si le mot amour est trop présent. Une autre raison d'ailleurs pour laquelle il y a des gens qui préfèrent utiliser le terme polyamorie plutôt que polyamour, c'est que polyamorie est un nom féminin, et polyamour est un nom masculin, et du coup, ils préfèrent quand même qu'il y ait un peu plus de féminin dans le vocabulaire.
Ah oui, parce que ça parle des émotions, alors forcément, c'est féminin.
Non.
Oui, j'ai décidé d'être casse-pied aujourd'hui.
Justement, dans polyamorie, on se dit que c'est pas forcément émotionnel.
Bah, ça devrait.
Bon, allez, assez parlé de vocabulaire maintenant.
Hourra !
On a parlé de trois significations pour le mot polyamour. Le polyamour de fait, le polyamour orientation et le polyamour philosophie. Et ces trois polyamours-là peuvent être complètement indépendants. L'un n'implique pas forcément les deux autres. Attention donc, dans des discussions, de savoir de quoi on parle. On s'est aussi demandé si le terme polyamour ne devait que concerner des relations amoureuses. Ça semble être devenu parfois l'usage en français, mais c'est peut-être à cause d'une traduction malheureuse de l'anglais polyamory. On a aussi évoqué quelques alternatives au mot polyamour, mais aucune n'est parfaite. Finalement, comme à chaque fois qu'on parle de vocabulaire, l'important c'est de se comprendre et d'être attentif au flou et au quiproquo. Est-ce que vous avez des choses que vous retenez particulièrement de cet épisode ?
Oui, moi je retiens que polyamour ça veut dire plusieurs amours et que j'avais raison.
C'est faux.
Moi j'aime bien le parallèle à faire entre le polyamour et le lesbianisme en tant qu'orientation, en tant que choix presque politique ou philosophique ou juste de fait.
Et moi je réinsiste sur ces trois significations du terme polyamour, parce que c'est quelque chose dont je ressens souvent le besoin dans des discussions de remettre ça à plat, parce que souvent les gens parlent de choses différentes. Et donc, j'invite tout le monde à faire attention de quoi on parle et est-ce qu'on parle de l'un ou des trois de ces sens du mot polyamour.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce podcast en est à ses débuts et on est avide de vos retours. N'hésitez pas à nous envoyer un mail sur contact@atesamours.fr et on se fera un plaisir de vous répondre. Vous pouvez trouver le transcript et les sources de cet épisode sur notre site atesamours.fr. À bientôt pour le prochain épisode.